Bienvenue à tous dans les Midi de Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Au programme, je reçois dans quelques minutes le metteur en scène Jean Bellorini. Nous parlerons entre autres de Histoire d'un Cid que l'on peut voir sur France Télévisions et bientôt en tournée. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour
Quoi
Marie.
Quoi de neuf dans le monde culturel en ce mardi?
Eh bien aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène qui est en pleine expansion. Selon une étude du Syndicat National de l'Édition, 5 millions de Français ont écouté au moins un livre audio en 2023. Ce format, physique ou numérique, permet à des lecteurs et des lectrices de transformer leurs pratiques et d'écouter des livres, par exemple en faisant d'autres activités, mais aussi de redécouvrir les textes autrement. Un point sur le livre audio, ses origines et ses spécificités, c'est notre dossier du Point Culture du jour. Bonjour Claire Ducournau.
Bonjour Sophie-Catherine.
Vous êtes sociologue et co-auteur avec Élodie Hommel d'une enquête sur la réception des livres audio. Alors Spotify vient d'annoncer son entrée sur le marché français du livre audio, jusqu'à présent dominé par Amazon Audible. Alors que raconte selon vous cet intérêt de Spotify pour le marché français du livre audio maintenant ?
Ça raconte en fait ce qui se passe depuis quelques années, enfin depuis on va dire de fil en aiguille, mais avec une croissance très importante depuis les années 2010 du marché du livre audio en France, avec donc de plus en plus d'éditeurs et de plateformes, de structures qui s'intéressent en fait à ce support pour le livre, et en fait qui devient une part de marché importante pour l'édition. Et donc Spotify, qui est suédois, se positionne désormais sur ce marché qui est en fait aussi une réalité internationale, puisque donc parmi les livres audio qui vont considérablement nourrir son catalogue, il y avait déjà quelques livres, mais là il y en aura je crois 15 000 en langue française, donc c'est très important.
Il y a une croissance forte, vous nous le dites, mais depuis quand en fait cette pratique elle existe? Est-ce qu'on peut dater le moment, l'essor ou en tout cas les débuts du livre audio?
Oui, alors bon, il y a des travaux, d'excellents travaux sur cette question qui ont été réalisés plutôt par des historiens de la lecture hors de France. Donc il y a Mathieu Rouberry au Royaume-Uni qui a fait un livre passionnant sur l'histoire du livre audio, et lui, il estime que les premières formes, c'est avec Thomas Edison, avec le phonographe à la fin du 19e siècle, qui permet de reproduire la voix et qui déjà permet de reproduire des poèmes, des chansons, etc. Et puis en fait, au fil des évolutions techniques et donc des différents supports qui se sont succédés à travers le temps. Donc, il y a eu le disque vinyle, la cassette, le CD, et maintenant les formats MP3 dématérialisés qui ont alterné, en fait. Mais après, sur le marché du livre éditorial proprement dit, c'est surtout dans les années 90 on prend en compte plus systématiquement ce format. Il y a la formule de Nicolas Jones qui parle de quatrième format pour le livre audio à côté. Livre au format broché, du livre de poche et puis du livre numérique.
Pourquoi il y a eu cette volonté d'aller vers justement l'enregistrement de l'audio? Est-ce qu'il y a quand même une différence d'expérience entre le livre qu'on lit et le livre qu'on écoute? Quelle est la différence fondamentale finalement entre les deux?
On est dans des sociétés où les sensations visuelles sont plutôt dominantes. Il y a beaucoup d'images autour de nous et puis voilà, ça paraît... La définition dans le dictionnaire de la lecture, ça passe d'abord par la vue, le papier. Mais en fait, d'autres historiens, je pense au travail de Roger Chartier par exemple, montrent à quel point dans la longue histoire, la lecture à voix haute, en fait, dans l'Antiquité et du 9e jusqu'au 14e siècle, c'était encore une pratique dominante en fait, qui a ensuite persisté dans certains contextes sociaux assez longuement. Et donc, s'intéresser au livre audio, c'est aussi relativiser les manières banales qu'on a aujourd'hui de lire, où on estime que c'est d'abord par la vue. En fait, c'est l'idée que voilà, on peut lire par l'oreille, de même qu'on peut lire par les yeux, et que effectivement, ça met en branle bien sûr d'autres sensations, peut-être d'autres modalités de réception, d'autres émotions. Ça peut susciter d'autres interprétations des textes. Voilà, il y a des travaux en tout cas qui s'intéressent actuellement au livre audio et qui montrent cela.
Et en fait, je me demandais aussi, est-ce que le choix qu'on a, d'un livre, quand on veut l'écouter, est-ce qu'il dépend non seulement du titre, bon ça j'imagine que oui quand même, mais est-ce que aussi la voix de l'acteur ou de l'actrice entre en compte, ou bien on est sur une voix qui peut être banale et ça n'entre pas en compte?
Alors bien sûr, ça c'est tout à fait passionnant, donc avec Élodie Hommel et puis des étudiantes et des étudiants, on a fait une enquête depuis 2021 sur des usages, on va dire, ordinaires, en fait, du livre audio par des auditrices et des auditeurs profanes, enfin non spécialisés, donc en faisant presque une cinquantaine d'entretiens. Et en fait, ce qui ressort de cette enquête, c'est des critères pour le choix des livres, notamment, qui sont différents de ceux qui sont utilisés pour choisir ces livres sur papier ou des livres numériques. Et donc, notamment, vous l'avez dit, la voix, la tessiture de la voix, l'interprétation, ce sont des critères absolument déterminants. Et il y a même donc des auditrices et des auditeurs qui vont cibler systématiquement les livres lus par... Alors, ça peut être des grands comédiens connus, je pense à Guillaume Gallienne, voilà, ou Fabrice Lucchini, mais aussi des comédiens qui se sont spécialisés dans le domaine du livre audio et qui vont avoir donc un public donc très installé.
Eh bien, merci beaucoup Claire Ducournau.
Dans le reste de l'actualité, les quatre finalistes du prix Goncourt viennent d'être annoncés à Bucarest au Musée national de la littérature roumaine. Mais qui sont-ils, Sophie Catherine ?
Et oui, alors c'est Sandrine Collette pour Madeleine avant l'aube, Kamel Daoud pour Uri, Gaël Faye pour Jacques Aranda et Hélène Gaudy pour Archipel, qui restent donc en lice pour l'obtention du Goncourt, dont le lauréat ou la lauréate sera annoncé le 4 novembre prochain au restaurant Drouan à Paris. L'annonce du dernier carré se fait désormais à l'étranger pour mettre à l'honneur des liens culturels entre la France et le pays choisi.